Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, s'il vous plaît. Et nous allons donc méditer une histoire qui n'est pas banale. Ça peut être notre histoire, c'est vrai. On peut se comparer peut-être à cette situation parce que c'est véritablement, la grâce de Dieu qu'un homme a découvert, a connu, dans une situation particulièrement difficile. On va le découvrir, on va le voir ensemble, on va le lire. Donc, livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, et nous allons lire les 4 premiers versets, et nous tournerons la page pour connaître la suite de ce récit. Donc, Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 38, verset 1er, cet homme c'est un roi de Juda, et on peut être roi ou un simple homme, et puis ça peut nous arriver de tomber malade. Voilà, c'est l'histoire. En ce temps-là, Ézéchias, c'est le nom de ce roi, fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots, « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. » Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Pour les familiers de la lecture de la Bible, vous connaissez, vous l'avez lu, et c'est un personnage quand même assez intéressant, Ézéchias, parce que il fait partie des rois qui quand même ont une vie de foi, d'autres non, hein. Mais lui a véritablement manifesté certaines qualités spirituelles, on peut dire, et puis une sorte d'intégrité également, et il fut malade à la mort. C'est terrible le diagnostic, hein. Quand on perçoit ou on diagnostique un mal, et que l'on vous dit, et peut-être l'avait-il ressenti lui-même, que c'était fini, il n'y avait pas beaucoup d'espoir, surtout en son temps. Et bien que cette maladie n'avait pas d'issue, sinon celle, de mourir. Alors, ce fameux prophète, qui s'appelle le prophète Ésaïe, c'est un monument. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, c'est quelque chose. Alors, le prophète Ésaïe, il est venu auprès du roi, et il lui a dit, « Ainsi Dieu te parle, ainsi parle l'Éternel, tu vas donner tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Alors ça, c'est quelque chose de très réconfortant. Imaginez-vous que il y ait une prophétie ou un parler en langue avec une interprétation et que ça s'adresse à quelqu'un, ça vous laisse quand même beaucoup d'espoir. Eh oui, comme ça, donne tes ordres à ta maison. Alors vous savez, il y a une chose que je voudrais dire, c'est un petit clin d'œil que je fais au passage, pour les habitués de dire « Seigneur, quelle lecture je vais prendre ce matin ?» Il y en a qui, vous savez, qui disent « Seigneur, écoute, je tourne ma page au hasard, les pages de la Bible au hasard, et c'est le texte que je vais lire. Vous tombez sur celui-ci, donne tes ordres à ton nom parce que tu vas mourir. » C'est peut-être pas des choses à faire, parce que si vous voulez passer une bonne journée, vaut mieux éviter de faire ce genre de processus. Oh, je tombe dessus. Oh, c'est terrible. Mais enfin bon, c'est pour vous dire qu'il y a des façons de lire la Bible qui sont convenables et d'autres qui sont certainement, à éviter. Enfin bon, c'est un clin d'œil, vous avez compris. Le pauvre Ézéchias, quand il a entendu ce qui lui était dit, tout roi qu'il était, a tourné son visage contre le mur, certainement du lieu où il était, ça, et il a fait une prière. Ça, c'est bien. Voilà. La réaction qu'il a eue, ce qui devrait être aussi nous-mêmes, et je pense que c'est le cas lorsque nous avons un problème, de quelque ordre qu'il soit, eh bien, à ce moment-là, je crois que le réflexe d'un croyant, eh bien, c'est de prier. Le diagnostic est tombé. Voilà, c'est ainsi. Vous savez, c'est redoutable quand vous avez affaire à ces hommes qui ont reçu certainement l'intelligence pour soigner les autres, et que l'on vous dit, monsieur, madame, voilà, les analyses sont ainsi, l'imagerie médicale décrète, et il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Vous savez, ça vous met dans des angoisses, c'est terrible. Et pourtant, malheureusement, il y a des dizaines et des centaines de personnes, c'est pas seulement chaque année, mais chaque mois, entendent ce genre de discours. Voilà, il y a ceci et cela. Maintenant, du temps d'Ézéchias, il n'y avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui, et on peut bénir le Seigneur. Maintenant, c'est pas parce que nous avons tous ces moyens qu'il ne faut pas donner la priorité de la prière avant toute autre chose, eh bien à Dieu. N'en oublions pas que, finalement, notre vie, elle lui appartient. Et il y a des choses qui sont permises dans notre vie qui sont vraiment pas très agréables, mais c'est comme ça. Et le contenu de la prière d'Ézéchias, c'est ceci. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et j'ai fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. » C'est bien. On se situe dans l'Ancien Testament, c'était la loi. Maintenant, nous apprenons par le Nouveau Testament, c'est pas parce que nous avons marché avec intégrité, que nous avons fait le bien, parce que la guérison divine et le secours de Dieu ne se méritent pas. C'est une grâce, c'est un don. On le sait, dans le Nouveau Testament, c'est ça. Le mot « grâce » remplace finalement toutes les exigences qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Nous avons plus de connaissances que Ézéchias en son temps. Et puis le mot « foi » remplace le mot « loi ». Donc ça c'est aussi à souligner. Alors Ézéchias répondit, après avoir prié, qu'il a prié devant Dieu. Moi je pense que les uns et les autres, on a tous connu ces moments difficiles dans notre vie. Peur pour nous, peur pour les autres, peur pour nos enfants, peur de ceci ou de cela, ça peut se multiplier à l'infini, et de dire, d'avoir les larmes aux yeux. Surtout quand il y a de la souffrance. Je ne sais pas, on ne connaît pas la maladie d'Ézéchias. On ne sait pas s'il souffrait, on ne sait pas ce qu'il en était, mais toujours est-il qu'il a répondu d'abondantes larmes. Et à ce moment-là, quand on parle à Dieu, Dieu nous répond. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Dieu ne va pas lui donner directement la réponse, mais il va passer par ce grand prophète qu'on a vu, qui s'appelle Ésaïe. Et c'est un message qui est tout à fait différent. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Dans nos détresses les plus extrêmes, dans nos angoisses, dans notre désarroi, je voudrais vous dire une chose toute simple, c'est que quoi qu'il en soit, Dieu écoute toujours nos prières. Nous avons le sentiment qu'il n'écoute pas, parce qu'on n'a pas une réponse immédiate, parce qu'on souffre et puis on n'a pas la consolation ou la compensation de soulagement. Non, il faut toujours que nous puissions, et vous savez, il faut être simple comme des enfants, il ne faut pas être infantile, mais simple comme des enfants, et la parole est arrivée. J'ai vu tes larmes. Alors après, bien sûr, vous le lirez chez vous parce que on va passer à un petit peu plus loin. Mais une chose qui est certaine, c'est que il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Et vous savez, dans nos milieux que l'on appelle charismatiques, milieux évangéliques, il se passe des choses extraordinaires. Ça se voit pas toujours. Il y a eu des temps où on a vraiment connu le réveil. C'est vrai. Où il y avait des choses, des fils de personnes qui venait à l'imposition des mains et qui repartait guéri. Alors n'allons pas penser que Dieu s'est endormi, que Dieu est mort, comme certains critiques l'ont dit, ou que nous-mêmes, nous nous joignons à leur voix en pensant que finalement, tout cela c'est fini, c'était pour les temps d'hier. Non, le Seigneur est encore capable de guérir aujourd'hui. Il est capable de faire encore des miracles. Il est capable de faire encore des grandes choses. Je pense que pour certains d'entre nous, on serait plus là. Si le Seigneur n'était pas intervenu dans notre vie, on ne serait plus là. Ça, c'est clair. Alors, nous avons justement, la complémentarité, et on va voir quelque peu, le déroulement de ce que Dieu va faire. J'ai vu tes larmes, j'ai entendu ta prière. Et on va le voir maintenant, ce qui s'est passé. On va découvrir. On vient de parler de l'histoire et des circonstances de la maladie d'Ézéchias. Avait-il péché pour être malade? Non, parce que c'est pas ça. C'est pas ça, pas du tout. Et il y a une plainte que nous avons évoquée, les larmes, les pleurs, il s'est tourné vers le mur et il a pleuré. C'est ça. Vous savez, il y a des gens qui se plaignent sans raison. Moi, je pense qu'il se plaignait avec raison parce qu'il avait peut-être mal. Puis il savait que finalement, c'était fini. Alors, il dira ces mots. On va le lire ensemble, on va le faire au fur et à mesure. Au verset 9, il est dit ceci, cinq cantiques. Enfin, c'est une louange, c'est une adoration. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et son rétablissement. Et son rétablissement, on pourrait l'appeler dans le Nouveau Testament la guérison divine. Alors il dira au verset 10, et c'est là où on va commencer. Verset 10, « Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts, c'est-à-dire je vais mourir, je suis privé du reste de mes années. » Peut-être pouvons-nous deviner que Ézéchias n'était pas très âgé. Il était roi. Mais peut-être, je ne sais pas, quel âge avait-il? 30 ans, 35 ans, 40 ans, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il prend conscience qu'il va partir. Et mourir, c'est jamais quelque chose d'agréable, même pour les plus âgés. Parce que Dieu nous a donné un souffle pour vivre. Mais quelquefois, les circonstances, la vie, l'accident, la maladie, changent les choses. Et il se le dit, mais mes jours sont en repos. Je me sens bien dans la vie. Il y a des gens qui se sentent mal et qui veulent mourir. Mais lui, c'était pas son cas. Et il se dit, mais je suis là aux portes de basculer, de passer, comme on dit plus vulgairement, de passer de l'autre côté. Je suis privé du reste de mes années. Donc il devait évaluer qu'il pouvait encore vivre. C'est vrai. Mais on n'est jamais prêt, de toute façon, c'est d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit. Alors, je dois m'en aller. Il se dit, mais pourquoi mourir si tôt? La maladie est une chose et le choix des hommes, c'en est une autre. Et il y a beaucoup de gens qui, quelquefois, veulent vivre et ils vont mourir, d'une façon ou d'une autre. Et il y a des gens qui disent, si je pouvais mourir, et ils ne meurent pas. C'est drôlement... c'est fou une histoire pareille, mais c'est comme ça. Peut-être se disait-il en tant que roi, avec beaucoup d'occupations et puis beaucoup de choses qui pouvaient être intéressantes, plus que dans la vie peut-être d'un simple mortel, partir quand je n'ai pas encore achevé ce que je veux faire. Oui, c'est vrai. On aime bien lorsque nous avons commencé quelque chose, si on est conséquent et sincère avec nous-mêmes, finir. La vie, c'est un bien précieux, ça c'est certain. Mais une chose qu'il faut se souvenir, c'est que personne n'est maître de son souffle. Personne, ça c'est clair. On a l'exemple du riche fermier, vous savez, dans la parabole de Luc, là, qui construit des greniers, etc., vous connaissez, et qui, à un moment donné, il n'a pensé qu'à lui-même, c'est un grotesque égoïste, on peut mettre tous les adjectifs que l'on veut, et puis à un moment donné, Dieu lui dit, mais cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et pourtant, il a réussi, pourtant, il a de l'argent, pourtant, il a des perspectives. Ah oui, quand mes jours sont au repos, dira Ézéchias. Parce que... Il y a des choses que nous devons savoir. On bat tous les records avec la mort. Je voudrais pas vous attrister ce soir, parce que je voudrais vous dire le contraire. Mais je voudrais vous dire que le record est battu dans toutes les statistiques, ce que 100% des hommes qui sont sur la Terre vont mourir. C'est pas 99%, c'est pas 99, non, c'est 100%. Faut pas vous faire d'illusions. Si vous pensez que vous allez voir... Moi, je ne sais pas, le 30e siècle, on s'est parti avant, depuis longtemps. Non, c'est comme ça, tout simplement. Et le pauvre homme se disait, « Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. » Ce qui est curieux, c'est que quand il est... Enfin, il n'est pas mort encore, mais il dit, « Je ne verrai plus l'Éternel. » Mais quand il était vivant, il ne voyait pas Dieu. C'est justement que là, au moment où il va finalement mourir, c'est là où il va voir Dieu. Mais il sent aussi qu'il va y avoir un détachement avec les hommes. Peut-être pensait-il à tous ceux qui étaient proches, à tous ses serviteurs, à sa femme, Voilà, ses affections plutôt, parce que bon, les rois de Juda, voilà, c'était tout un monde derrière. Hein. Sur la terre vierge, je ne verrai plus aucun homme, aucun des habitants de la terre. Vous savez, quand on est souffrant, on a beaucoup d'imagination, hein, mais pas dans le sens positif. Ah ouais. Ça nous rappelle peut-être des vécus que nous avons, hein, proches ou lointains. Et quand on a mal, on est dans une perspective qui n'est pas toujours des plus dynamisantes. On se dit, mais voilà, est-ce que c'est ceci? Et puis la moindre petite augmentation ou douleur, etc., nous dire, mais voilà, il y a ceci, il y a cela, etc. Vous savez, les gens qui n'ont pas souffert physiquement et moralement, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Il faut y être passé. Et ça nous permet peut-être de comprendre les autres. Hein. L'imagination dans la souffrance. Et il y a peut-être une phrase qui nous revient, enfin, une pensée qui nous revient, tout est perdu. Ouais. Mais vous savez, quand nous nous disons tout est perdu, Dieu peut nous dire, mais ça commence. Eh oui, commence une autre vie, commence une autre expérience, commence une autre, finalement, eh bien, une autre dimension. Et c'est ça ce que Dieu veut nous dire. Il n'y a plus d'espoir. Eh oui. Quand le moral n'y est plus, il le dit, je ne verrai plus. Éternel, je ne verrai plus aucun homme. Voir Dieu sur la terre. Voir Dieu sur la terre, qu'est-ce que ça veut dire finalement, puisqu'on ne le voit pas? Eh bien, on peut le découvrir de cette manière à travers le message de l'Évangile. C'est le reconnaître ici-bas dans ses œuvres et dans sa parole. C'est tout ce qu'on verra de Dieu. Ses œuvres, la création, le livre majestueux de la création, et puis également la parole écrite que nous avons et dont nous pouvons bénéficier tous les jours. On pourrait dire que c'est le regret, Ézéchiel, c'est le regret d'un croyant qui aimait Dieu. Oui, parce qu'il le dit, hein. Il l'exprime, qui aimait Dieu, et ne plus voir ce qu'il voyait de son vivant, de ce vivant qui allait finalement, cette vie qui allait se terminer. C'est laisser la vie, c'est laisser ses activités, c'est laisser ses joies, tout ce qu'il peut y avoir. Pourtant, il y en a des malheurs sur la terre, il y a encore des gens qui veulent vivre malgré les malheurs. Hein. Ils s'accrochent, et heureusement d'ailleurs. Parce que Dieu a chevillé, finalement, cette volonté de vivre. Et tous ceux qui ne veulent plus vivre, ce sont des gens qui tombent dans, finalement, le déni d'eux-mêmes, dans la dépression, dans des idées qui sont terribles. Hein, et certains arrivent, finalement, à mettre un terme à leur vie. Et tous quitter tout ce qu'il y a de bon. Parce qu'il y a du bon et du mauvais. C'est vrai. Alors quand c'est bon, ben, quelque part, c'est bien, naturellement. Il nous est dit au verset 12, « Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame du jour à la nuit. Tu m'auras achevé. » Alors là, on peut dire que c'est vraiment très défaitiste, mais bon, c'est ce qu'il vit. Hein. « Demeure enlevée comme une tente. » Nous voyons que Ézéchias, dans sa souffrance, compare son corps, puisque ça semble certainement physique, à une tente de nomades qu'on habite en passant. Oui, une tente. Les campeurs, ils sont au camping au mois de juillet, au mois d'août, puis après ils rentrent chez eux. Hein. Mais les nomades, ils sont finalement tous les jours de l'année. On n'a plus de nomades, nous, chez nous. Hein. Mais quand on va dans l'Orient, il y a encore. Hein. Mais la tente, c'est quoi? C'est pas une maison, une tente. C'est quelque chose que l'on monte, que l'on déplie, que l'on transporte, et on va de... Eh bien, notre vie, c'est ça. C'est quelque chose que on fait tellement de cas pour la vie, et c'est normal, mais c'est tellement fragile. Notre corps, c'est quelque chose de fragile. Il suffit de peu de choses hein, pour que tout se dérègle. Hein. On en sait quelque chose, hein. Peu de choses, hein. Ça c'est clair. Et il le compare finalement, eh bien, c'est un endroit, la vie, que l'on habite. On est habité par le vivant, par la vie, mais c'est qu'en passant. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes tous des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Même si le voyage nous paraît long, hein, quelquefois. Et même certains, il est très long, hein. Y a des gens qui dépassent aujourd'hui dans notre monde, et il y en a de plus en plus, hein. Je crois qu'en 2050, on sera plusieurs millions. Enfin, quand je dis on sera plusieurs millions, je pense que je serai plus là. Mais bon, toujours est-il que, hein, c'est quelque chose, hein. Parce que bon, il y a une amélioration. Mais on est en passage, tout simplement. Alors c'est vrai que quand on est jeune, c'est plus difficile, hein. Il faut bien le reconnaître, la mort est le moment où cette demeure est brusquement et quelquefois prématurément enlevée. On a des statistiques hein, dans ce que nous voyons dans notre société, hein, notre monde, et ce qui peut être quelquefois apporté à notre connaissance. Ben, il n'y a pas que les gens de 90 ans qui meurent. Quelquefois, hein. Il y a des enfants, et c'est terrible. Il y a des... Enfin, je ne voudrais pas vous mettre le moral à bas, parce que je vais vous dire encore quelque chose tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a un formidable espoir, mais il faut en parler. Il faut bien qu'il y ait une base à notre réflexion, parce qu'autrement, on n'y penserait pas. Vous vous rendez compte qu'on serait tous en bonne santé, que pouf, on serait comme des Hercules. On serait là comme grand comme Goliath, et en parfaite santé. Mais est-ce que vous croyez qu'on penserait à Dieu? Si on n'avait aucun problème économique, aucun problème de travail, que tout irait bien et tout ça, pouf, on serait sur la plage de Saint-Nazaire en train de bronzer, là, formidable, sous les palmiers. Il y en a des palmiers à Saint-Nazaire, hein, vous avez remarqué? Non, mais ça vous fait rire, mais il y a des palmiers. Eh oui. Alors, il dira, mais le fil de ma vie est coupé. Oui, comme une sensation que notre vie tient à un fil. Il y en a certains qui sont vraiment juste sur le sommet de la crête. Hein. Voilà. Et quelquefois, on peut passer par là. On se dit, ben voilà, est-ce que je vais m'en sortir? Et il le dit, le fil de ma vie. Et il ne faut jamais l'oublier, ça. Hein. Le verset 13, un peu plus loin, je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion qui brisait tous ses os. Du matin à la nuit, tu m'auras achevé. Voilà, ce sont les plaintes. Eh oui, c'est ce que nous avons lu dans le premier passage de tout à l'heure. Hein. Hein, quand il a pleuré, quand il a regardé le mur, quand il a prié, c'est ça ce qu'il dit en finalement. Je décode, je suis en train tout simplement de restituer un petit peu ses paroles, parce que bon, c'est naturellement. De la nuit dans le désespoir, vous savez, ça me fait penser un petit peu aux disciples qui étaient partis... plein d'enthousiasme. Ils avaient vu un miracle extraordinaire, ils avaient vu la multiplication des pains. Jésus les fait monter sur la barque, tout est calme, tout est formidable, tout est en repos, une formidable soirée se prépare. Quand ils sont au milieu du lac de Tibériade, voilà un ouragan, une déferlante qui arrive, et là, ces hommes qui sont véritablement aguerris à l'exercice de la pêche et de la barque et puis du bateau, quelque part, ils vont être complètement perdus, ils vont même avoir des hallucinations, ils vont croire voir un fantôme, vous vous rendez compte? Et les vagues qui passent et qui repassent, et la barque est en train de se remplir d'eau, et il y a 12 hommes dedans, enfin il y a 12 hommes dedans, hein. Et ils sont en train de perdre la vie, alors ils crient, comme certainement la nuit du désespoir. On se souvient de certaines nuits, on n'a vraiment pas, on en a gardé un souvenir impérissable, hein. Ça c'est certain, dans certains cas, parce que la nuit on ne voit rien. On ne sait rien, on ne connaît plus rien. Et c'est vrai que lorsque vous avez une bonne fièvre, ou que vous avez une grosse douleur, c'est fou, hein. Ah, il faut savoir le dire, il faut savoir l'interpréter, tout ça, hein. Et de comprendre peut-être pour ceux qui y passent, et de leur donner des paroles d'encouragement, de dire, mais après la nuit, il y a toujours la lumière qui vient, hein. Vous avez vu des nuits qui durent 24 heures? Non? Non, il y a toujours après au petit matin, même en plein hiver comme nous sommes actuellement, eh bien il y a toujours un moment donné où la lumière paraît. Il n'y a pas toujours du soleil en hiver, ça c'est certain, mais en tous les cas il y a toujours. C'est pour nous dire, et Dieu nous dit à travers ça, mais garde espoir, parce que le matin vient, l'étoile du matin va se lever sur ta vie. Ça c'est quelque chose, l'obscurité et les ténèbres, qui nous semblent tellement redoutables, eh bien là, sont comme un lion en quelque sorte, un lion qui brise, qui broie. Parce que nous sommes renfermés dans un univers, on est fait pour la lumière, on est fait pour le jour, on n'est pas fait pour la nuit, naturellement. Alors quand il y a des problèmes qui se... C'est la brûlure de la souffrance, du corps en particulier, un corps malade. Mais le corps n'est pas seulement malade, il y a les tourments de l'âme, parce que ça va ensemble. Moi je voudrais vous dire et je voudrais vous réconforter ce soir, parce qu'on m'a souvent posé la question. Alors peut-être que je peux choquer des gens. Je leur ai dit, il y a des gens qui me disent, mais oui, je suis malade. Je n'en peux plus, je prie plus, je peux plus prier, je peux plus ouvrir ma Bible. Vous savez ce que je leur dis? Vous allez dire, mais enfin, il est temps que je m'en aille bientôt. Hein. Mais vous allez me dire, mais la réponse que je leur dis, ne vous culpabilisez pas. Laissez passer la tempête, et puis après, vous savez, vous allez rouvrir votre Bible et vous allez prier avec une avidité, et ça sera plus de la prière, ça sera de l'adoration. Parce qu'il y en a qui se rendent malades. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs, des chrétiens, qui se sont rendus malades. Ils me téléphonaient ou ils pleuraient en disant « Mais je ne peux plus, je ne peux plus. » Ils attendaient à ce que je leur dise « Faut y aller, faut y aller. » Comme vous pouvez plus y aller. Ouais, faut avoir un peu de compassion. Hein. Ouais. Parce que ça, je l'ai vu. Hein. Pendant tout le ministère, je peux vous dire qu'ils se rendaient encore deux fois plus malades. Ils avaient un mal physique. Ils étaient psychologiquement et moralement complètement en bas. Et en plus, ils aggravaient leur situation avec un conflit spirituel. Mes frères et sœurs, ça revient tout ça. Et il faut pas vous culpabiliser. Il y en a qui se confondent en disant, ben, je prie et puis je demande pardon, 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 mais le Seigneur, quelquefois c'est ça, parce qu'on a peut-être fait des blagues, mais le Seigneur nous pardonne nos erreurs et nos blagues. Je suis pas comme tout le monde. Ben non, quand on peut plus, on peut plus. Quand vous avez quelqu'un là qui est complètement au bout et moi j'ai connu hein des frères qui étaient à la mort hein, et qui se culpabilisaient encore parce qu'il y avait ceci et cela. Tu sais, Alain, je peux plus ceci. Ah, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors je peux pas avoir un autre langage parce que si j'avais un autre langage, je serais pas pasteur. Je pourrais pas, ça correspond pas. Du jour à la nuit, tu m'as achevé, dira-t-il. Il est question d'un lion. Vous savez le lion, là? Tiens, vous en connaissez un lion? Vous savez? Il y en a un qui parlait dans la Bible du lion, rugissant. Parce que lui, il se sert finalement de nos faiblesses, de nos peines, de nos larmes, de nos désespoirs, de nos souffrances, pour nous faire souffrir encore davantage. Eh oui. Alors, le verset 14, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Enfin, une hirondelle, ça, comment ça fait une hirondelle? Ça pépite? Vous avez jamais entendu? On n'en voit plus beaucoup des hirondelles, hein. Ah non, mais c'est vrai. Surtout qu'ils ont, ils ont enterré maintenant les fils électriques. Alors, c'est sûr que, enfin, c'est moi qui le dis, hein. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant, je gémissais comme la colombe, mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi! Voilà la prière que nous avons vue déjà dans la première partie. Secours-moi, Seigneur. Les cris d'une hirondelle, je gémissais comme une colombe, cette note plaintive. Quelquefois ce sont des cris, mais quelquefois on n'a même plus la force de crier d'eux. Et d'épuisement du malade qui n'en peut plus et qui n'attend que l'ultime délivrance. Seigneur, mets un terme à ma vie. Je souffre de trop. Il y en a qui ont demandé la mort, hein, ça c'est sûr. Hein. Et une fin qui ne vient pas. Parce que justement, Dieu garde le meilleur pour la fin. Pour nous dire, mais non, tu vas apprendre que ton souffle, que ton énergie, que tes forces, je les ai entre mes mains. Nul ne les ravira de ma main, malgré toutes les suggestions que le lion rugissant, essaie de nous mettre dans ces moments-là, jusqu'à ce que la souffrance laisse échapper la prière de la supplication. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Il y a un moment dans nos prières où nous atteignons le bout du bout, avec les mots qui conviennent, avec ce qui va déclencher le retournement de situation. Et quelquefois, on n'en est pas toujours conscient. On le sent à un moment donné. On le pressent. Et là, de la plainte, on arrive à la délivrance. Écoutez bien. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Je prends la première partie de ce verset. Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Ça, c'est extraordinaire. Pour vous dire que Dieu est vivant. En permanence. C'est pas par alternance. C'est pas parce qu'il est occupé ailleurs. Mais Dieu est vivant éternellement. Et en voilà la preuve à ma prière. Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Il a été touché. J'ai été touché en retour. Et voilà que Ézéchias va prendre des résolutions que nous avons lues. Parce que la proximité de la mort ou d'une maladie grave qui peut nous emporter apprend aux hommes la sagesse et rend à la vie sa vraie valeur. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Après avoir été ainsi affligé. Oui, je pense que il y a des choses que nous apprenons dans la souffrance, que nous ne pourrions pas apprendre autrement. Maintenant, ça ne veut pas dire « Seigneur, fais-moi souffrir, j'aime ça ». Non, non, cette école-là, on la demande jamais. Hein. Oh, vous n'avez pas besoin de la demander, ça vient tout seul, de toute façon. Oui, ça nous apprend la sagesse. Après, la folie, je ne veux pas dire qu'Ézéchias était fou. Bon, peut-être avait-il la folie des grandeurs, comme on peut l'avoir à son stade, à son niveau, il était roi. Bon, voilà, nul n'est parfait, hein, naturellement. Mais toutes ces épreuves que nous passons, ça nous donne la vraie valeur à la vie. Et vous savez, on a entendu des non-chrétiens quelquefois dire après avoir échappé à un accident. Ils devaient prendre un avion et puis ils ont été en retard et puis l'avion, il est parti et puis il s'est scratché. La personne est consciente en disant maintenant, depuis cette histoire, j'ai échappé à la mort, ma vie n'est plus la même. Ou quelqu'un qui revient d'une maladie très grave alors qu'il était donné pour être perdu, même mort, et qui retrouve des forces, vous savez, la vie change à ce moment-là. Hein. C'est plus la même façon, plus la même mentalité. Il y a des vanités, il y a des choses qui nous paraissaient tellement importantes et qui n'ont plus de sens à un moment donné. Et là où les gens, quand ils reviennent de ces moments-là, ils goûtent tous les jours, ils le disent hein, quelquefois. Ils le disent, mais moi maintenant, chaque instant de la vie, je les goûte, je les apprécie et je veux pas perdre mon temps à toutes sortes de choses qui sont inutiles. Il y en a hein, des choses inutiles dans la vie des hommes. C'est un bien, c'est un don du ciel qu'il ne faut pas dilapider. On a compris certaines choses. L'humilité, c'est la garantie contre la folie. C'est ce qu'il nous est dit. On va un peu plus loin. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Eh oui. Voilà le secret qui est dévoilé et qui est confessé par Ézéchiel, qui commence à retrouver finalement, eh bien là, une autre dimension de son existence. Une porte s'est ouverte, de nouveaux horizons lui apparaissent à ce moment-là. Et il vient de toucher du toit la bonté de Dieu. Dieu est bon. Il y a quelquefois dans nos colères ou dans nos incompréhensions, on dit « Seigneur, c'est pas bon, hein, et donc si c'est pas bon, c'est que tu n'es pas bon non plus. Hein. » Eh bien, la bonté de Dieu est le gage du véritable bonheur et du maintien des hommes à l'existence. Vous savez que quand on se lève le matin, enfin, je sais pas comment vous levez, ça me regarde pas, mais toujours est-il que les premiers pas que nous faisons et les premiers regards que nous portons lorsque nous commençons à nous mettre en route pour la journée, c'est encore une grâce de Dieu. Hein. Merci Seigneur de me donner de voir aussi cette journée qui commence. Alors, on n'y pense pas, parce que c'est vrai, on n'y pense pas, mais la reconnaissance et la gratitude devraient être dans notre cœur tous les jours. C'est curieux parce que quelquefois, beaucoup de gens, des chrétiens, font des prières le soir avant de s'endormir. Mais on oublie toujours de faire la prière pour le matin. Merci Seigneur de m'avoir donné une bonne nuit. Vous le dites ça quelquefois ? Oui, bah oui, excusez-moi. Bon, là, je n'ai pas vérifié. Hein. On vous a réveillé demain matin à 3h du matin pour savoir si vous avez bien dormi. Parce que là, je pense que... Mais non, non, non. Si vous le faites, c'est bien. Mais on n'est pas toujours conscient des privilèges et de la bonté de Dieu tous les jours. Que notre cœur soit rempli de gratitude. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. C'est une merveilleuse expérience du relèvement. Eh oui. Et puis, voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Vous vous rendez compte ? Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction. Car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ah, ça, c'est important. C'est important parce que finalement, nous touchons quelque chose de fondamental dans la vie des hommes. Peut-être pas pour nous, bien que on n'est quand même pas des saints. Ça, c'est sûr. Nous restons des hommes. Mais on touche quelque chose qui est véritablement très évangélique. Hein. La douleur et l'épreuve ne sont pas forcément négatives. C'est ce que nous dit ce texte, et destructrice. Il est dit, au reste, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses plans. Et quand on touche à cela, eh bien, on voit que finalement, eh bien, c'est tout le Nouveau Testament, dans le vécu d'Ézéchias, qui est déjà préparé. C'est un prélude. Eh oui! Mais il faut en sortir de tout ça. Il faut sortir et de dire, bon, c'est vrai qu'il m'arrive ceci et cela. Mais je crois que tout cela, ça va certainement eh bien, avoir des conséquences heureuses pour moi. Quand il m'est arrivé aussi quelques petites mésaventures, je me suis raccroché à cette pensée. Je me suis dit, Seigneur, si tu l'as permis, c'est que tu as quelque chose à me dire, à me montrer et à me faire vivre. Et je crois que ça a été un bénéfice, c'était ça parmi d'autres choses. Mais de dire, eh bien, écoute, je pense qu'il y a quelque chose encore qui va continuer pour moi. C'est bien, hein? C'est vrai, qui va continuer, et je veux voir, et je veux connaître, je veux vivre ce que tu as préparé. Bon, je suis là encore. Mais bon, c'est vrai, je crois que c'est comme ça, parce que bon, même si c'est pas d'une grande gravité, mais c'est comme ça quand même. Hein. Quand on le vit, c'est tout. Mais toujours est-il que c'est pas négatif, hein. Et le verset 17, « Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, et tu as jeté derrière moi mes péchés. » Vous savez que Dieu prend un véritable plaisir. Il y trouve même son bonheur. Il y trouve sa satisfaction. Je dirais même son contentement. Non pas dans nos souffrances, hein, pas du tout, mais de fruits, finalement, qui peut en résulter. Eh bien, de sauver les hommes et de les arracher à la mort, comme nous le voyons, et, ce faisant, de parvenir à la connaissance de la vérité. Et quelle vérité? Eh bien, moi, c'est le pardon des péchés. Alors, les enfants de Dieu, on en a besoin. Mais je vais vous dire, quand on fait de l'évangélisation, quand on a un auditoire avec des hommes et des femmes qui sont un peu comme Ézéchias, qui, bon, vivent une période difficile et qui vivent peut-être en bascule entre la vie et la mort. Quand nous rencontrons des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile, autrement qu'Ézéchias, et lorsque ils entendent un message qui les touche et qui les touche par le physique, dans une promesse de guérison, dans une promesse de délivrance, à un moment ou à un autre, le Saint-Esprit qui est en train d'agir pour leur donner la foi pour être guéri, agit également pour qu'ils aient la foi pour être guéris de leur âme. Et à ce moment-là, puisqu'ils ont été touchés, ils confessent leurs péchés, se repentent et demandent à Dieu qu'il soit, à Jésus, qu'il soit le Sauveur et leur Seigneur. C'est extraordinaire. On y est passé. Non, on ne peut pas attester autrement. On y est passé. On a été touché. Moi, quand je suis venu au Seigneur, c'est parce que ça n'allait pas bien du tout. Même si j'étais tout jeune. Ça n'est pas bien. Et c'est à travers ce pas bien que le Seigneur m'a dit, je vais te donner le meilleur maintenant. Et prise de conscience de nos péchés. Il y a quelquefois des maux qui peuvent survenir selon la volonté permissive, je dis bien volonté permissive de Dieu. Ça reste un mystère, mais une chose qui est certaine, que Dieu permet des choses pour que, à un moment donné, un croyant, un chrétien, ou que ce soit les gens de l'extérieur, puissent toucher du doigt, parce que c'est le but. On peut être guéri miraculeusement, mais on va mourir quand même. Mais il faut mourir sauvé. Et pour être sauvé, faut demander pardon de nos péchés. Faut que le sang de Jésus soit passé sur notre vie et nous purifie et nous donne une nouvelle dimension d'existence. Je termine. La mort ne glorifie jamais Dieu. Non. La mort, c'est un accident. C'est une catastrophe. C'est une infamie. C'est quelque chose d'abominable, la mort, parce qu'elle n'aurait jamais dû exister. Donc elle ne glorifiera pas Dieu. Par contre, c'est une gloire éternelle de reconnaître en Jésus notre Sauveur. C'est ce que la Bible nous dit. Vous savez, Jésus dira dans la prière sacerdotale, il dira cette parole, Jean chapitre 17, il dira « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ézéchiel pouvait pas connaître cela, parce qu'il vivait, 600 ans avant que Jésus soit venu. Mais néanmoins, la parole reste la même. Pour chacun d'entre nous, nous l'avons connu. Pour ceux qui ne l'auraient pas connu, il faut qu'ils le connaissent. C'est une nécessité. Or, la vie éternelle, c'est que, véritablement, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé parce qu'on est sauvé par Jésus-Christ, et de le recevoir, finalement, comme notre Sauveur. Et je finis. Verset 19 nous dit ceci. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, hein, comme moi aujourd'hui. Alors, le vivant, qui est-il? Vous allez dire, c'est moi. Moi, je suis vivant. Oui, on peut être vivant, mais si on n'a pas Dieu dans notre vie, on est mort, spirituellement, on est d'accord. Le vivant, c'est l'homme qui a la foi. Oui, c'est tout simple, hein. C'est l'homme qui a la foi. Alors si vous avez la foi, puisque vous avez la foi, et forcément vous avez la foi, eh bien vous êtes vivant. Parce que vous savez, quand on arrivera de l'autre côté, il nous est dit que le royaume des cieux sera rempli de ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. L'homme de foi. Éternel m'a sauvé, nous ferons résonner les cordes et nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Oh, ça a des allures un peu du psaume 23, là, hein, vous savez, hein, j'habiterai tous les jours dans la maison de mon Dieu, etc., etc. Vous savez, celui qui a beaucoup reçu, eh bien, a beaucoup d'amour et de reconnaissance. Et c'est un attachement que nous avons très très fort et pour toujours par rapport à Jésus. La conclusion sera la suivante. On va aller la chercher tout simplement dans le livre du prophète Malachie, ou Malachi, comme vous voulez, où Dieu dit aux hommes, « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il suffit de demander, demander, et vous recevrez. Ézéchias, alors qu'il était à la mort certaine, a prié, il a demandé, et il a reçu. Et il a été guéri. Alors, vous avez bien noté Ésaïe chapitre 38, vous allez le relire chez vous, parce que j'ai pas tout dit, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que il s'est passé un miracle. Dieu lui a accordé un supplément de vie, alors qu'il a recouvré la santé, et il était toujours roi. Alors après, naturellement, il a géré sa vie comme il l'a voulu, je ne veux pas vous en dire plus, vous le lirez, mais toujours est-il qu'une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur fait grâce à ceux qui le prient, et qui le prient avec foi. Et nous avons cette belle promesse extraordinaire, Jésus dira, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, le nom de Jésus, il vous l'accordera. Malade, guéri, problème, solution. C'est ce que Dieu nous propose encore ce soir. On va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole ce soir encore. Nous croyons que, au travers de ta parole transparaît des grandes vérités, des vérités de toujours, des vérités d'éternité pour les hommes que nous sommes. Croyons, Père éternel, que s'il y a très très longtemps, autrefois nous pourrions dire, des hommes ont crié à toi et qui véritablement ont été entendus, puisque Ézéchias dira, j'ai crié à toi, tu m'as répondu, tu m'as exaucé. Nous savons, Seigneur, que ce Dieu qui se dit l'Éternel, le Dieu de toute éternité, eh bien, Seigneur, nous croyons que ce Dieu-là est encore notre Dieu aujourd'hui. Il est le Dieu de l'homme du 21e siècle. Il est le Dieu des croyants d'aujourd'hui. Il est le Dieu de ceux qui entendent ta parole en ce moment. Il est le Dieu de ceux qui vont l'entendre encore demain et puis tous les jours qui viendront. Seigneur, Dieu ne change pas. Et merci, Seigneur, de ce que véritablement nous avons pu méditer sur ces textes tout simples pour celui qui est malade, celui qui souffre, celui qui est dans la douleur, de ne jamais perdre espoir. Le premier réflexe que nous devons avoir devant ces choses, même si la situation est dramatique, oui, Seigneur, désespéré, eh bien, Ézéchiel nous en a montré le chemin. Première chose qu'il a fait, c'est de prier son Dieu. Eh bien, Seigneur, ce soir, nous te prions. Moi, je te prie, nous te prions pour nos malades. Nous te prions pour ceux qui souffrent, ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui sont là, alités dans des cliniques, dans des hôpitaux, ceux qui sont, Seigneur, sans traitement, qui sont sans, en effet, Père éternel, possibilité. Mais, Seigneur, en effet, nous pouvons avoir beaucoup de choses sans. Mais si nous t'avons, eh bien nous avons tout. Alors tu bénis ta parole. Fais du bien, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.